Chers amis auditeurs d'Opéra Agora, bonsoir. Voici à l'écoute d'Opéra et avec mon ami le réalisateur Elliot Mauzin, eh bien nous allons essayer, comme d'habitude, de vous faire partager notre passion pour la grande musique et l'opéra. Au micro, votre serviteur, Christian Segarici, chef d'orchestre, directeur d'opéra, pour vous faire découvrir ou redécouvrir les grands chefs-d'œuvre lyriques par les meilleurs interprètes, avec ça et là quelques anecdotes et moments vécus au sein de ce monde fantastique qu'est l'opéra. À chaque émission, nous célébrons un compositeur. Ce fut d'abord Gounod et l'opéra français, dont nous avons conservé le célèbre moment, la ronde du veau d'or de Faust, pour notre générique. Puis ce fut un hommage à Verdi et l'opéra italien. Et ce soir, ce sera le tour de Richard Wagner et l'opéra germanique. Nous essayons ainsi d'évoquer tous les styles et tous les courants des diverses nations qui ont produit des opéras. Le cas Wagner, comme le décrit très bien Nietzsche, est vraiment stupéfiant. Sur le podium des trois personnages possédant la plus grande bibliographie, nous avons en numéro 1 le Christ, en numéro 2 Napoléon Bonaparte, et en numéro 3, qui l'eût cru, un musicien, pour ne pas dire un saltimbanque, Richard Wagner. Des milliers de livres ont été rédigés sur ce compositeur à la vie et l'œuvre si intéressante et si riche. En effet, le personnage est un monument, tout au plan humain qu'au plan artistique. Un géant, adoré ou détesté, selon les sensibilités, mais surtout, selon les informations détenues sur ce génie. Sa vie est un roman invraisemblable et son œuvre d'une telle intensité et d'un tel niveau qu'il faut vraiment beaucoup l'écouter et surtout beaucoup lire les avis éclairés des professionnels, ou non, de ses adorateurs et aussi de ses détracteurs, pour pouvoir approcher la vie et l'œuvre de ce géant. Des Baudelaire, des Nerval, Paul Valéry, Nietzsche l'ont vénéré. Des Paul Claudel, Cocteau l'ont exécré. Du côté des compositeurs, ses adorateurs ont été Liszt, Tchaïkovski, Verdi, ses détracteurs, Meyerbeer et Berlioz. Pas de tiédeur en face de Wagner. On l'idolâtre où on le déteste. Pour comprendre cela, examinons la réaction de l'immense chef Arturo Toscanini du temps où il était violoncelliste dans l'orchestre de la Scala et où il se perfectionnait dans la composition musicale. Écoutons-le. Un jour, dans la fosse d'orchestre de la Scala de Milan, on nous distribua une nouvelle musique inconnu de l'orchestre. C'était le prélude de Lohengrin de Richard Wagner, un de ses premiers opéras. En examinant cette musique et en la jouant, je compris qu'il valait mieux désormais que j'abandonne tous mes rêves de compositeur, car la musique que je découvrais était d'un tel niveau, d'une telle hauteur d'esprit que je compris ce qu'était un génie. Cette musique était plus que de la musique. Fermez les guillemets. Et effectivement, Toscanini ne composa plus rien et mit tout son talent à servir la musique de Wagner, refusant même d'être payé pour interpréter une telle musique. Et il disait toujours aux organisateurs de festivals « Mais c'est moi qui devrais vous payer pour avoir l'occasion de jouer du Richard Wagner. » Écoutons donc en première partie le fameux, le merveilleux prélude de Lohengrin, le chevalier au cygne qui descend des nues à cheval sur son cygne pour venir faire le bien sur la planète. Et laissons-nous envelopper par la spiritualité qui, depuis les étoiles, nous tombe sur l'esprit pour le pénétrer et le rendre meilleur. Écoutons la Philharmonie de Berlin sous la direction de Sir Simon Rattle. Cela fait penser à la méthode hugolienne quant à la forme, souvent partir d'un murmure, l'amplifier, le rendre incandescent, puis peu à peu disparaître. Vous vous souvenez cette merveilleuse poésie, les djinns, extrait des orientales de notre cher Victor Hugo, où l'on commence par un mot, mur, ville, port, asile de mort, mer grise ou brise la brise, etc., etc. Et puis ça monte, et les phrases redescendent, terminent en disant « Silence ici, l'espace efface le bruit ». Quelle musique ! On se sent entraîné dans un monde mystérieux, une impression d'espace infini, une liberté de l'esprit, de l'imagination, où la lumière céleste vient éclairer nos sensations corporelles et les transcender dans un voyage interminable. Eh oui, Ça va très loin, Wagner. C'est une pensée musicale qui se régénère sans cesse, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Comme disait fort justement Toscanini, c'est plus que de la musique. Quelques mots de la vie de ce génie, né à Leipzig en 1813 et mort à Venise en 1883, à 70 ans. Le jeune Richard, orphelin de père, est adopté par Ludwig Geyer, acteur de théâtre, qui a une petite compagnie de théâtre. Jusqu'à 16 ans, Wagner s'appellera Richard Geyer et baignera dans le monde merveilleux du théâtre fantastique, qui est très prisé en Allemagne en ce début de romantisme. Les elfes, les Néréides, les sirènes, les géants, les demi-dieux hantent le jeune Richard, qui ne les abandonnera jamais dans ses compositions. Nous n'aurons jamais affaire à des quidam, à monsieur et madame. Non, ce sera toujours des personnages immenses ou bien, tout simplement, mythiques. Ces opéras seront donc peuplés, non pas d'humains, mais des créatures fantastiques ou encore de héros légendaires. Et sa musique, évidemment, se mettra à l'unisson de ce monde fantastique. Vous imaginez qu'il ne fallait pas de la musiquette pour accompagner les géants de la tétralogie, par exemple. Il prendra des cours d'orgue à l'église du coin, ce jeune Richard Geyer, et rapidement, son génie musical en fera un surdoué, composant musique et poèmes comme un professionnel, alors qu'il n'est qu'adolescent. Après quelques essais de jeunesse, comme son petit opéra « Les Fées », son premier vrai chef-d'œuvre sera « Rienzi », l'histoire du tribun moyenâgeux aux prises avec les tyrannies religieuses. Car Wagner est déjà un antidogme, un révolutionnaire qui participe, fusil au poing, aux insurrections de Dresde avec l'anarchiste Bakounine. Et il a du mal, bien entendu, en plus, à rembourser ses nombreux emprunts auprès des usuriers juifs. Le mot est lâché. Là commencera une interminable saga. Il était lui-même juif. Geyer était juif et lui est juif. Il en gardera une haine pour les banquiers et leur comportement inculte et avide que certains définiront comme une forme de racisme. Mais gardons-nous de toute interprétation hâtive. Ce n'est pas parce que Hitler adorait les opéras de Wagner que Wagner était hitlérien. Hitler est né en 1889 et Wagner était mort depuis longtemps. Il est vrai que les descendants de Wagner, eux, ont été certains, hélas, des sympathisants du nazisme. Pas tous, heureusement. En tout cas, Richard Wagner aurait été fusillé par n'importe quelle dictature tant il était un révolutionnaire dans l'âme. Écoutons la prière de Rienzi juste avant de périr dans l'incendie de Rome. Écoutons Jonas Kaufmann et surveillons ce magnifique petit prélude d'introduction.
Thank you.
C'est la première manière de Wagner, qui compose des mélodies magnifiques, mais somme toute assez traditionnelles quant à la forme. Rienzi a vraiment existé du temps de Pétrarque. Et maintenant, Wagner, qui a 22 ans, est devenu chef d'orchestre et a épousé une chanteuse. Il doit fuir l'Allemagne, car il a la police à ses trousses. En tant qu'agitateur politique, comme Verdi, vous vous souvenez, ils ont beaucoup de choses en commun. Déjà, ils sont nés en 1813, tous les deux. Et en plus, ce sont véritablement des agitateurs. En plus de la police, il a également à ses trousses les créanciers, les usuriers, qu'il ne veut pas rembourser, car il estime que ce sont des escrocs. Il fuit en bateau, traverse une tempête allant vers la Norvège et compose alors le vaisseau fantôme, inspiré justement de cette tempête, tout en rêvant de venir ensuite composer à Paris un nouvel opéra, Tannhäuser. Écoutons maintenant l'ouverture du vaisseau fantôme et régalons-nous des dons exceptionnels de Wagner, peintre musical, qui nous met en musique tous les effets d'une tempête nordique et l'angoisse des marins face à la mer déchaînée et le Hollandais volant, ce fantôme qui a osé défier Satan et qui est maudit, qui ne peut mourir, il veut la mort, mais, et c'est là le début de toute la saga wagnérienne philosophique, il ne pourra mourir et être enfin délivré, un peu comme les vampires, lorsque une femme pourra l'aimer réellement et se suicidera pour le rejoindre dans l'éternité. Voilà résumé la philosophie de Wagner, l'amour impossible sur Terre. Écoutons l'ouverture du vaisseau fantôme sous la baguette de Georges Sébastien. Peinture musicale. Thank you. capitaine maudit qui a défié le diable vient tous les 7 ans sur la berge pour essayer de trouver la rédemptrice. Et déjà, Wagner utilise le leitmotiv qu'il a inventé, procédé merveilleux, petite phrase musicale très courte qui exprime une idée ou un personnage et qui véhicule son ombre musicale tout au long de l'opéra. C'est génial. Écoutons maintenant, toujours dans ce vaisseau fantôme, l'air de Dalande. Dalande, c'est le père de la rédemptrice, celle qui se jettera dans la mer, se suicidera pour rejoindre le Hollandais volant dans la mort et l'éternité. Et j'en profite, bien entendu, l'occasion m'est donnée pour remercier à jamais une espèce de Pygmalion pour moi, Manfred Schenk, qui pendant 12 ans a tenu tous les grands rôles de basse au Festival mondial de Bayreuth et avec lequel j'ai eu la chance de travailler beaucoup et qui m'a beaucoup appris. Écoutons cet air maintenant, l'air de Dalande. Et nous voici maintenant à Paris avec l'aventure de Tannhäuser. Tannhäuser, scandale s'il en fut, scandale organisé. Je vais vous raconter comment. Tout cela est parti d'un ballet que Wagner ne voulait absolument pas composer au deuxième acte. Il voulait ou bien pas de ballet du tout, ou bien un grand ballet inclus dans l'ouverture d'orchestre, le lever de rideau. Mais les membres parisiens du club aristocratique, le Jockey Club, avaient dans la compagnie de ballet de l'opéra chacun leur petite danseuse à entretenir. Et ils voulaient surtout pas manquer de les voir danser en tutu, mais au deuxième acte, car avant ça, ils avaient une réunion et ne pouvaient venir qu'au deuxième acte. Wagner, évidemment, n'en a pas tenu compte et il a écrit une bacchanale aphrodisiaque, infernale, rien à voir avec le ballet blanc montrant les belles anatomies des petites danseuses entretenues par les bourgeois et aristocrates du Jockey Club. Et donc, cabale. Il y a même eu des sifflets à roulettes construits spécialement pour le Jockey Club qui venant donc cette fois-ci au début du spectacle, puisque le ballet était au début, et naturellement, il n'y avait pas de tutu, et il y avait surtout une bacchanale infernale, et l'orchestre a dû lutter pendant une demi-heure que dure ce grand ballet avec les sifflets du Jockey Club. Baudelaire veille, heureusement, et l'immense, le grand poète défendra arme au poing Wagner contre cette bande de nullité aristocratique. Et puis, petit à petit, eh bien, le temps fera son ouvrage et le ballet restera bien au premier acte et deviendra même un grand morceau de concert complètement à part. Le nouveau roi de Bavière, Louis II, qui a 19 ans, jeune monarque exalté et amoureux de Wagner, le prend sous sa protection et le finance. Enfin, Wagner peut composer en toute sérénité et quitter la misère des petits boulots. Tannhäuser est une nouvelle saga nordique, un nouveau dilemme entre l'amour charnel et la débauche personnalisée par Vénus, déesse de l'amour, invitant sans cesse le chevalier Tannhäuser à la débauche. La rédemption sera apportée, encore une fois, par une âme pure, celle d'une femme, toujours la femme, Élisabeth. Cela va devenir, je vous l'ai déjà dit, le thème essentiel de la philosophie wagnérienne. La rédemption par l'amour de la femme. Wagner, qui écrit tous ses poèmes de ses opéras, se lance dans des essais philosophiques, politiques, scientifiques, comme par exemple la lutte contre la vivisection et l'amour des animaux. Surtout des chiens qui font partie de sa vie et qui seront enterrés à ses côtés à Wanfried, la villa qui jouxte le festival de Bayreuth. La philosophie et la spiritualité et le message rédempteur ou encore l'absurdité de la vie feront partie de tous les nouveaux ouvrages. Voyons le pessimisme de Schopenhauer, bien entendu. Chacun composé avec un style différent, car Wagner veut une forme différente pour chaque sujet. Ça, c'est absolument unique, car généralement, lorsque un compositeur, un peintre ou un écrivain ont trouvé une bonne recette, ils l'emploient pour toutes leurs œuvres, même si le sujet est très différent. Wagner, non. Pour chaque ouvrage, il faut s'adapter avec la forme. Se renouveler sans cesse. Son mot était « enfant, faites du neuf ». Progresser toujours, s'entourer de nouvelles machines à l'opéra, de l'éclairage au gaz maintenant, fini les bougies, inventer un nouveau théâtre à la grecque, un amphithéâtre où l'orchestre sera invisible en dessous de la scène, comme venu de nulle part, pour exacerber le mystère. Ce sera l'opéra de Bayreuth, construit et réservé aux œuvres de Wagner, subventionné par le roi et sublimé par les artistes qui viennent tous en 1876 pour l'ouverture, chanter gratuitement pour apporter leur pierre à la réussite wagnérienne. Mais Wagner, l'incorrigible, multiplie les aventures amoureuses. Il épouse la fille de Liszt, Cosima, qui est déjà mariée. Il séduit Mathilde Wissendonck, la femme de son principal commanditaire. Il subjugue Judith Gautier, la fille de Théophile Gautier. Il doit faire face à des maris trompés, allant jusqu'à des duels, qu'il évite soigneusement, bien entendu. Grâce à son avocat, un certain Jules Ferry. Bref, c'est un génie, mais aussi un enfant terrible. Pas toujours sympathique, il faut bien le dire. Mais comme dit le roi Louis II, seule l'œuvre compte. Seul le génie restera, on oubliera les fredaines. Et comme dit le mari de la fille de Liszt, Cosima, le chef d'orchestre Hans de Bülow, le cocu de service. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Mais oui, je suis cocu, mais à l'homme qui a écrit Tristan et Isolde, il faut tout pardonner. » Ouf ! Purifions-nous avec le cœur des pèlerins de Tannhäuser sur le chemin de Rome, en espérant l'absolution du pape, qui ne viendra pas, pour les péchés de la débauche inspirée par Vénus. Écoutons.
Oh.
Dans les années 1850, Wagner s'attaque maintenant à la célèbre légende de Tristan et Isolde. Et c'est à nouveau un monument de la musique. Avec l'utilisation permanente des fameux leitmotifs musicaux, porteurs de signification et véhicules pratiques pour déplacer l'action dans le temps. L'idée et le message principaux seront, comme je l'ai déjà dit, que seule la mort peut enfin unir deux êtres qui s'aiment d'un amour impossible. Et Wagner s'adonne avec délectation dans le pessimisme schopenhauerien et la méditation sur l'absurdité de la vie terrestre et le fait que seul l'art peut nous préparer à la mort. Ça, c'est quelque chose qu'il partage avec Mozart. Seul l'art, le grand art, le grand, 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 avec un grand majuscule, grand A majuscule, seul celui-là peut nous préparer sereinement à la mort. Parce que lorsqu'on l'a approché, eh bien, il est temps maintenant de quitter cette vie terrestre. Écoutons maintenant la fin de Tristan et Isolde, à savoir la célébrissime Liebestod, la mort d'amour, avec la merveilleuse Nina Stimme. Nous sommes là, au sommet de la musique. Écoutons.
Thank you.
En composant Tristan, Wagner travaille depuis longtemps à sa grande saga germanique, l'anneau du Nibelung, l'anneau d'or qui donne le pouvoir. C'est une saga nordique bien connue, peuplée d'êtres fantastiques, les Nibelungen. C'est une œuvre messagère d'un grand pessimisme, à savoir, le monde est ingouvernable. Au début, ce sont les géants qui luttent contre les dieux, car les dieux ont le pouvoir. Les dieux, ce sont la noblesse et les aristocrates. Mais ils n'en ont jamais assez, et donc ils vont, eh bien, faire allégeance aux géants qui vont construire pour eux des palais somptueux. Les géants, eh bien, ce sont le monde intermédiaire, on dira la frange moyenne, ceux qui travaillent et construisent. Mais une fois qu'ils ont le pouvoir, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux aussi vont avoir toujours, toujours, toujours envie de plus, toujours plus, toujours plus, et eux-mêmes vont régner maintenant sur la couche inférieure, ceux qui travaillent en bas dans la mine, les Nibelungen, c'est-à-dire le pauvre monde. Et le pauvre monde finira bien un jour aussi à avoir le pouvoir, mais il le perdra aussi. Ils sont tellement bêtes qu'ils perdront leur pouvoir. Le monde est ingouvernable. Voilà ce que pense Wagner. Chacun est juge d'adhérer ou non. Encore un message nihiliste d'un Wagner torturé, ou est-ce simplement, peut-être, la réalité de sa propre vie? L'anneau du Nibelung se joue en quatre parties, d'où le nom de tétralogie. Quatre opéras joués séparément. L'or du Rhin, un soir, la Valkyrie, le lendemain, Siegfried, le surlendemain, et enfin, le crépuscule des dieux, le surlendemain. 12 heures de musique commenté par des milliers de livres savants et même par une bande de dessins animés pour les enfants. Écoutons la célébrissime chevauchée des Valkyries sous la baguette de votre serviteur, production de l'Opéra de Toulon. Écoutons. Thank you. pour se confronter plus sereinement à cette vie qui semble être si insupportable, Wagner compose une sorte d'opérette géante, les maîtres chanteurs de Nuremberg, qui démontre que Wagner, le sombre, le pessimiste, peut également réussir dans le genre léger, léger entre guillemets, car c'est peut-être l'œuvre la plus exigeante au point de vue du personnel nécessaire. Plus de 400 exécutants au festival de Bayreuth, entre les musiciens, les choristes, les figurants et la foule qui est sur le plateau. Bayreuth, Bayreuth, la fin de vie de Wagner, avec la construction de son propre opéra, de sa demeure, Wahnfried, ce qui signifie en allemand « la paix des illusions », et aussi la construction de son tombeau très sobre, où tous les ans, lors du festival d'été, au mois de juillet, des dizaines de milliers d'amateurs de cette musique viennent effectuer un pèlerinage. Déjà à sa création, en 1876, Gérard de Nerval s'écriait « Il faudrait venir à ce festival à genoux, en marchant sur les genoux. » Bon, c'était Gérard de Nerval, adorateur de Wagner. Malheureusement, il s'appelait en réalité Gérard Labruni et on l'a retrouvé pendu à Paris dans la rue des Mauvais Garçons. Bon, c'est un personnage extrêmement poétique, mais aussi, aussi sombre probablement que Richard Wagner. C'est là que sera créée la dernière œuvre à Bayreuth, donc le testament musical et philosophique de Wagner, Parsifal, saga moyenâgeuse, d'après Chrétien de Troyes et Wilhelm von Eisenbach, entre autres. C'est une sorte de grand voyage initiatique, depuis l'ignorance et la bêtise jusqu'à la vertu qui seule peut amener la rédemption. C'est en réalité la saga, la quête du Graal des chevaliers du Christ. Ainsi, le parcours artistique de Wagner nous montre qu'avec sa jeunesse et Lohengrin, la solution pour faire face à cette vie si difficile résidait dans le rêve d'une grâce divine bienveillante tombée des cieux, c'est-à-dire reçue avec la confrontation aux obstacles d'une vie réelle. Wagner changera d'idée. Et cette grâce, eh bien, il nous montrera avec Parsifal qu'il suivra le chemin inverse, c'est-à-dire non plus la recevoir indolemment en tombée du ciel et des étoiles, mais au contraire, grimper pour aller la quérir. C'est le symbole de l'énergie que l'on sent dans toutes les notes de Richard Wagner. L'énergie, c'est-à-dire se hisser par ses propres efforts pour s'élever et entrevoir la sagesse et la paix. Écoutons la musique sacrée de l'enchantement du Vendredi Saint et la régénération de la nature et de la vie. C'est sur ces pages sublimes qu'avec Elliot, nous vous saluons en espérant vous faire partager notre passion. Rendez-vous le mois prochain. Bonsoir.